RFI 9h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal avec Marion Cazanov.
Au Proche-Orient, le cinquième échange d'otages israéliens de prisonniers palestiniens. Libération imminente à Gaza et qui interviennent quelques jours après les propos choc de Donald Trump sur un déplacement forcé des Gazaouis en Jordanie ou en Égypte. L'armée russe continue de gagner du terrain en Ukraine, tandis que l'armée ukrainienne, elle, tente de maintenir ses positions dans la région russe de Koursk. Les combats se poursuivent dans l'est de la RDC, dans le sud Kivu, entre l'armée congolaise et le M23, soutenu par le Rwanda. Et puis comment l'intelligence artificielle bouleverse le secteur culturel avec ses avantages, mais aussi ses dangers pour les artistes, pour les chanteurs, on le verra à 2 jours du sommet mondial sur l'IA à Paris. Un cinquième échange d'otages israéliens et de détenus palestiniens prévu tout à l'heure. 3 Israéliens, 3 hommes doivent être libérés par le Hamas. Israël, en échange, doit relâcher 183 prisonniers palestiniens dans le cadre de cette trêve. Les deux parties se préparent en ce moment, notamment les combattants du Hamas. Certains sont déployés à Deir el-Balah, dans le centre de l'enclave, là d'où sont prévues ces libérations. Des libérations qui interviennent quelques jours après les propos de Donald Trump sur les Gazaouis. Le président américain a pour projet de prendre le contrôle de l'enclave et d'en évacuer sa population, ce qui a provoqué une onde de choc mondial. Reportage en Jordanie, où des milliers de personnes ont manifesté à Amman.
Sous un ciel gris, la rue animée de Swaifiyeh à Amman est devenue le théâtre d'une manifestation de taille. Des milliers de Jordaniens se sont rassemblés pour exprimer leur colère et leur inquiétude face au projet de Donald Trump de déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. L'idée de transformer le royaume hachémite en une patrie alternative pour les Palestiniens est inacceptable pour Ahmed et Joudia, rencontrés dans la foule.
La Jordanie est une ligne rouge, la Palestine est une ligne rouge. Et les lieux saints islamiques sont également une ligne rouge.
Nous sommes venus aujourd'hui pour affirmer notre soutien au roi Abdallah II et rejeter l'idée d'une patrie alternative. La Palestine pour les Palestiniens et la Jordanie pour les Jordaniens.
La position officielle de la Jordanie est pourtant claire depuis le début de la guerre à Gaza. Le projet de déplacer les Gazaouis vers la Jordanie représente une véritable déclaration de guerre avec Israël, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi.
Le déplacement massif ou forcé de Palestiniens vers la Jordanie, nous y ferons face avec toutes nos capacités. Pour la Jordanie, cela équivaut à une déclaration de guerre.
Selon les chiffres officiels, 40% des habitants de la Jordanie, qui compte 11 millions d'habitants, sont d'origine palestinienne, la majorité d'entre eux étant venus en Jordanie lors de la Nakba et de la Naksa palestinienne. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Une manifestation contre ces propos du président américain Donald Trump, qui a aussi imposé des sanctions contre la Cour pénale internationale. Ses fonctionnaires ont désormais interdiction d'entrer sur le territoire américain. Cela comprend aussi un gel des avoirs, des sanctions que condamne la CPI, des condamnations d'ailleurs unanimes, Pierre Benazet.
Une protestation en soutien à la Cour pénale internationale a été signée par 79 pays à travers le monde pour affirmer que le décret de Donald Trump, je cite, « augmente le risque d'impunité pour les crimes les plus graves et menace de miner l'état de droit international ». Parmi les initiateurs de ce texte figurent des pays européens, la Slovénie et le Luxembourg, rejoints par la France et l'Allemagne. Un seul Européen fait évidemment exception, c'est le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il veut retirer la Hongrie du statut de Rome qui fonde la Cour. La Commission européenne, elle, se réserve, je cite, « la possibilité de prendre des mesures de son côté ». Elle ne donne pas de détails, mais il s'agit évidemment de la loi de blocage adoptée il y a près de 30 ans, pour contrer les sanctions américaines à l'époque contre la Libye, l'Iran et Cuba. Ce statut de blocage interdit tout bonnement aux ressortissants de l'UE ou aux entreprises européennes d'obtempérer à des décisions étrangères. Elle leur donne même le droit de porter plainte devant la justice européenne. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
De son côté, l'Ukraine dit espérer que la CPI continuera à poursuivre les auteurs russes présumés de crimes de guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, Donald Trump semble vouloir s'en occuper. Le président américain affirme qu'il rencontrera son homologue ukrainien probablement la semaine prochaine. Volodymyr Zelensky précise que leurs deux pays prévoient des rencontres et des pourparlers sur le front. Il précise aussi que des soldats nord-coréens combattent à nouveau dans la région de Koursk. Les soldats de Pyongyang ont essuyé de lourdes pertes dans cette région russe frontalière que l'Ukraine contrôle en partie. Et selon Volodymyr Zelensky, ces militaires retirés un temps sont donc à nouveau déployés dans cette région de Koursk. Sur le front ukrainien, l'armée russe progresse et s'est emparée de la cité minière de Toretsk, au-dessus de Donetsk. Le même interrupteur, la même lumière, rien ne change a priori pour les Baltes dans leur usage de l'électricité, mais cette électricité, elle ne vient plus du même fournisseur. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie se sont officiellement déconnectées du réseau russe et elles se sont branchées sur les réseaux européens ce matin, ce qui leur évitera à l'avenir d'être victimes de chantage venu de Moscou. RFI 9h05 à Kinshasa. La situation dans l'est de la RDC sera abordée aujourd'hui à Dar es Salaam en Tanzanie, au sommet conjoint de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, et de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les présidents congolais et rwandais devraient y participer. Les combats se poursuivent dans le sud Kivu entre le M23, soutenu par l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Et l'insécurité met à rude épreuve le travail des humanitaires. Le forum des ONG internationales en RDC condamne fermement l'attaque ayant coûté la vie à 3 collaborateurs de l'une d'entre elles, l'Entraide protestante suisse. C'était dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Luc Lamprière, directeur du forum des ONG internationales en RDC, appelle à une action urgente pour protéger ces humanitaires.
On le dit toujours, les humanitaires ne sont pas des cibles, ils sont là aux côtés des populations, ils sont là pour les assister, où qu'ils soient et quelle que soit leur situation. Donc il est très important que les humanitaires puissent accéder à tous les endroits, qu'ils puissent aller là où il est nécessaire que leur présence puisse assister la population. Aujourd'hui, les humanitaires sont menacés et ces menaces ont comme conséquence qu'ils risquent de ne pas bouger, de ne pas aller là où ils sont attendus. Les menaces sur les humanitaires, c'est une remise en cause de la possibilité pour les humanitaires eux-mêmes d'assister les personnes dans le besoin. Les humanitaires doivent être protégés. C'est ce qu'impose le droit international humanitaire, c'est ce qu'imposent les lois de la guerre. Aujourd'hui, on a déjà atteint un niveau d'incident qui concerne des humanitaires qui est le plus élevé depuis une décennie. Et donc, du coup, il y a des vraies menaces qui rendent encore plus compliquée la possibilité d'intervention.
Luc Lamprière, directeur du Forum des ONG internationales en RDC, propos recueillis par Passion Ligaudi. Toute l'actualité africaine à retrouver sur notre site RFI.fr et également dans la dernière édition d'Afrique Matin dans moins de 30 minutes. Le droit du sol en France s'impose peu à peu dans le débat. Jeudi, les députés français ont adopté une loi pour restreindre le droit du sol à Mayotte, département français de l'océan Indien, confronté à une importante immigration illégale. Depuis, plusieurs ministres se prononcent là-dessus. Celui de la justice, Gérald Darmanin, aimerait une réforme de la Constitution sur ce sujet. Hier, le Premier ministre François Bayrou a dit vouloir un débat plus large sur l'identité française, sur, je cite, « qu'est-ce que c'est qu'être français ?». Paris est en ce moment la capitale mondiale de l'intelligence artificielle, avec des rencontres, des événements culturels organisés avant un sommet mondial lundi. Et mardi, RFI vous propose à l'occasion de nombreux programmes sur notre antenne l'IA qui bouleverse tous les domaines aujourd'hui, notamment celui de la musique. Et les artistes dénoncent ces dangers, notamment en matière de droits d'auteur, Olivier Roger.
Ce que vous entendez, c'est un morceau créé en quelques clics par la rédaction de RFI sur une application d'intelligence artificielle gratuite. Certes, il ne va pas révolutionner l'art, mais cet instru, aussi médiocre soit-il, met en lumière une tendance croissante dans l'industrie musicale, les faux morceaux générés par l'IA. Il y en a des dizaines de milliers qui se créent chaque jour et les plateformes de diffusion musicale sont confrontées à des fraudes massives. Aurélien Hérault, chef de l'innovation chez Deezer, plateforme musicale franco-américaine.
Je pense que la crainte des créateurs se situe sur ce secteur. Est-ce que l'AI va industrialiser la fraude, en fait? Est-ce que le fait qu'on puisse, en quelques clics, créer des morceaux, et puis avec un système de bot, générer des écoutes, est-ce que ça va les capturer de la valeur? Et c'est pour ça que nous, d'un côté, faut qu'on soit capable d'identifier le contenu, et de l'autre, mettre en place des systèmes anti-fraude aussi, qui vont analyser les types d'écoutes.
Fausse musique, faux auditeurs, mais vrais revenus. Deezer a décidé de combattre ces dérives en mettant en place des outils informatiques, mais aussi en augmentant la part versée aux musiciens. Le but est de changer le partage de la valeur afin qu'il ne soit plus centré sur le marché, mais d'abord sur les artistes.
Olivier Roger. Et puis toute la journée sur RFI, donc de nombreux magazines seront consacrés à ce thème, à l'IA. Ce sera le cas, notamment pour Echo d'ici, Echo d'ailleurs, dès 10h10, temps universel. Pour l'heure, il est 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel.